Hey, salut mes bums, comment ça va? Aujourd'hui, là, je me promenais en char, ok? J'étais allé faire des commissions pour Noël. Puis je me promenais en char, puis je me disais, hey, c'est vrai, man, la veille des pay-per-view, je fais une vidéo avec mes analyses et prédictions, tu sais, puis ces affaires-là. Puis là, je l'avais pas faite. Je l'avais pas faite pantoute, même. Fait que là, je me disais, quand je vais revenir chez nous, je vais me crisser en live, puis ben, je vais les faire. Je vais les wing, en fait, parce que. Je ne me suis pas préparé pantoute, là, honnêtement. Pour ça, je suis la personne la moins prête du monde. Mais j'ai regardé la carte. Puis quand même, heureusement, je connais pas mal tout le monde sur la carte. Donc, let's go! Hey, analyse et prédiction complète pour l'UFC 269. Man, c'est ça qui arrive, le gros. C'est ça qui arrive. Je suis tellement pas prête. Mais on va en parler parce que dans le combat principal de la soirée, on a un autre main event qui ne peut pas vraiment décevoir. T'sais, entre vous et moi, Poirier-Oliveira, ça s'inscrit dans la même lignée que les Jan Sandhagen, tous les main events récents qu'on est là. Ce combat-là, il n'y a aucune chance sur Terre que ça soit plate. Puis c'est exactement ça que ce main event-là est. Parce que tu as deux gars qui sont bons, excellents même, pas mal le plus haut niveau qu'on a à lightweight en ce moment. Mais qui ont tellement des flaws clairs que chacun d'entre eux peut un peu comme utiliser la flaw de l'autre contre lui, que ça va donner tout un spectacle. C'est comme Dustin Poirier. Dustin Poirier, on s'entend, si ce combat-là va dans les later rounds, c'est dur un peu de s'imaginer un knockout au quatrième round pour Charles Oliveira dans ce combat-là. On le sait, plus le combat avance, plus Dustin va se mettre dans sa game. Puis c'est un combattant qui est immensément tough aussi. Quelqu'un qui est en début de combat, des fois, peut être un peu cold, mais c'est pas quelqu'un que tu vas cut cold puis knocker. C'est pas quelqu'un que tu vas nécessairement soumettre. Puis là, je me sens entre guillemets parce qu'il se bat contre Charles Oliveira. Là, en tout. Puis moi, si Charles Oliveira veut soumettre Dustin Poirier, il peut absolument le faire. Mais tu sais, c'est que Dustin Poirier est excellent, mais prend pas toujours les meilleures décisions. Le gars, c'est tellement un fighter, un peu comme un Justin Gaethje, un peu comme Michael Chandler, des fois, va vouloir plus faire le show, on dirait, que vraiment arriver avec le game plan parfait pour gagner le combat. Puis tu sais, dans ces deux derniers combats, il y a eu l'air de 5 000 $ contre Conor McGregor, mais entre vous et moi, ça prend plus ce que ça prenait là, pour battre Conor McGregor. T'as pas besoin d'arriver là avec un game plan long de 2 pages là, pour battre Conor. On s'entend, c'est rendu. Le livre a été écrit, mettons. Fait autant j'arrive ici et je dis il faut que je lean en faveur de Dustin Poirier dans ce combat-là parce que c'est à la fois le combattant qui est le plus tough et le plus technique des deux debout. Oui, Charles Oliveira, son Muay Thai s'est vraiment amélioré dans ses derniers combats. Il y a plus de knockout que de soumission dans ses derniers finishes, mais on l'a vu contre Michael Chandler, c'est un gars qui va se coalisser tête première dans tes attaques. Donc, on a à la fois Poirier qui va être probablement plus technique debout. Un petit peu mieux défensif parce qu'on va se dire Dustin Poirier n'est pas un defensive fighter incroyable lui non plus, mais si tu regardes les qualités défensives de ces deux combattants-là, est clairement meilleur en défensive que Charles Oliveira, que sa défensive, c'est genre j'envoie mon chin moyen direct dans ton coup de poing. Mais ceci étant dit, Charles Oliveira, c'est un madman qui va partir après lui, puis qui va essayer d'être très actif, d'avoir beaucoup de volume, puis même s'il lance avec volume, il est quand même puissant. Puis Dustin Poirier, tu sais, j'ai de la misère à le truster. Genre, j'ai de l'impression que ça devrait. Tu regardes le match-up, ça devrait être un pick quand même facile en faveur de Dustin. Je pense que c'est le meilleur des deux dans plusieurs affaires. Le problème, c'est que, tu sais, même Dan Hooker le takedown 4 fois, ça, faut, je t'avoue que ça me fait un peu peur parce que Charles Oliveira est un peu comme Damien Maia, tellement reconnu comme étant un bon grappler, un bon submission artist, qu'on oublie le fait que c'est un très bon lutteur aussi qui est capable d'amener le combat au sol. Souvent, les meilleurs grapplers en MMA, les gars qui ont les plus hauts credentials de Jiu ont de la misère à amener le combat au sol. Jack McKenzie Dern, là, mettons, si t'as fait là, si tu calisses pas dans sa game de leg lock toi-même, c'est quand même facile de ne pas grapple avec McKenzie Dern. C'est pas le cas avec Charles Oliveira. Puis Dustin Poirier a tendance à se faire takedown dans pas mal tous ses combats si son adversaire cherche à le takedown. Puis aussi, il y a la fâcheuse manie de pull une guillotine quand quelqu'un essaie de faire un takedown, comme si sa défense de takedown, c'est automatiquement guillotine. Puis, tu sais, Je veux me dire en dedans de moi qu'il fera pas ça. Mais il l'a fait contre Khabib. T'sais, fait que s'il est game de faire ça contre Khabib, il va certainement être game de faire ça contre Charles Oliveira. Fait que si, c'est pas compliqué, mon pick officiel, comme si j'ai une analyse à faire du style match-up et tout, mon pick officiel, c'est Dustin Poirier par TKO au 4e round. Mais vous pouvez être sûr et certain que quand on arrive sur un site de gambling puis que je regarde les odds sont excessivement serrés puis j'ai pas le choix d'y aller pour l'underdog Oliveira pour un bet, mettons. Si on parle d'un bet ici, je betterais pas pour Poirier parce que c'est vraiment 50-50 tout proche là, ce combat-là. Je pense que Poirier, oui, devrait gagner, mais les chances sont assez élevées là, qu'il fasse de quoi de complètement stupide puis qu'il se fasse soumettre. Là. Fait que honnêtement, mon pic, c'est Dustin Poirier. Mais si j'ai un bet à faire, c'est Charles Oliveira. Ceci étant dit, combien avant de la soirée, Amanda Nunes, Juliana Peña, et j'ai Amanda Nunes par TKO au premier rang. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur ce combat-là? Est-ce que vous voulez qu'on en discute plus longuement? Pense pas, hein? Ça, je me disais. Jeff Neal, Santiago Ponzinibbio. Bon combat et drôle de combat quand tu regardes la trajectoire actuelle des deux combattants. Parce que c'est deux bons fighters, mais j'ai vraiment l'impression que le perdant de ce combat-là, il va falloir commencer à mettre une croix sur lui en tant que top 15 fighter dans sa division. On s'entend, Jeff Neal est un peu sur une séquence de défaites. Santiago Ponzinibbio est revenu de sa longue pause où il s'est fait opérer à peu près à 394 places différentes en perdant contre Li Jingliang. Puis là, depuis, il est revenu et il a gagné face à Miguel Baeza, mais je ne sais pas comment elle feel par rapport à Ponzinibbio, honnêtement, parce que il n'avait pas l'air de lui-même dans son combat contre Li Jingliang. Il a eu un peu plus l'air de lui-même contre Baeza, mais on dirait que ça lui a pris du temps à se mettre dans ce combat-là, puis il s'est fait taguer solidement. Puis Jeff Neal, honnêtement, c'est un headhunter comme il s'en fait rarement. Là. Le gars lance des 1-2 puis des head kicks. That's it, that's all. C'est que ça qu'il lance. Il lance un crochet une fois de temps en temps, mais ne lance pas au corps. Ne kick pas dans les jambes, absolument pas. Puis Santiago et tout, c'est quand même un headhunter. Fait que, d'un côté, j'ai l'impression qu'en termes de trajectoire, Ponzinibbio, il a réussi récemment à revenir sur la voie de la victoire contre Baeza, qui est un bon combattant aussi, Miguel Baeza, il faut se le dire. Donc, c'est quand même une belle victoire. Puis Neal, lui, est non seulement sur une séquence de défaites, avait l'air de moins en moins inspiré dans chacun de ses combats-là. Puis il est aussi arrivé un petit événement dehors de la cage là, avec lui où il a pogné une balloune dans le fond, puis il avait un gun dans son char, ce qui est vraiment une offense très mineure au Texas. Là, on s'entend, quand tu habites au Texas, tu n'as pas de gun dans ton char, c'est plus là que la police te juge. Mais tu sais, je ne sais pas comment read in toutes ces affaires-là. C'est pour ça. Si je regarde juste le match-up, j'aurais tendance à dire Santiago Ponzinibbio, mais d'un autre côté, je l'ai vu se faire de plus en plus mal dans ses derniers combats et même se faire finir par Li Jingliang, chose que oui, Jeff Neal a perdu ses derniers combats de façon très peu inspirante à part de ça, mais il s'est pas fait finir. Il s'est pas fait ridiculiser vraiment. Ça s'est rendu à la décision. Ça a été des combats où c'était clair, net et précis qu'il perdait là, contre Wonderboy et contre Lee Magny. Neal Magny, que j'ai dit le Lee Magny, sacrament Faberman. Mais c'était clair, net et précis qu'il perdait, mais il s'est pas fait finir. Fait que j'ai comme l'impression que Santiago devrait gagner, mais Jeff Neal va quand même être là pendant 15 minutes à y lancer des 1-2 très puissants puis spammer des head kicks. Puis j'ai l'impression que la durabilité de Santiago depuis toutes ses blessures puis son opération, puis tout, c'est ça qui est en question. Fait que c'est encore un autre combat où j'ai comme pick Ponzinibbio. Mais si j'avais à bet, ça serait probablement sur Jeff Neal qui est l'underdog dans ce combat-là. Donc, ça fait une couple de combats de même hein, sur cette carte-là. Mais mon pick, ça va être Ponzinibbio par décision ici. Puis ça nous mène Un autre esti de combat que je ne sais direct pas ce qui va arriver, les guys, parce que Kai Kara France, Cody Garbrandt, on s'entend, tu regardes ce match-up-là, puis t'es genre, ben, tu sais, Cody Garbrandt est un meilleur combattant que Kai Kara France. Mais, d'un autre côté, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va avoir l'air à 125 livres. Le gars avait l'air sec sur un esti de temps, honnêtement, à ce poids-là. Tu sais, dans les semaines, les... puis tu sais, il a pas l'air autant malade que TJ Dillashaw. TJ Dillashaw avait l'air d'être en train de mourir à l'idée de faire 125 livres. C'est pas le cas avec Cody Garbrandt. Il a l'air un peu plus en shape. Mais ça fait deux semaines qu'il est sec, sec, sec. Là. Puis je sais pas, il pèse combien sec de même, mais ça va être dur de faire 125. Puis non seulement ça, mais aussi le fait que on s'entend à Garbrandt, c'est sa rapidité et son explosion qui faisait de lui un combattant spécial à 135 livres. Le fait qu'il était plus rapide que la majorité des gars dans cette division-là, puis il est capable de générer un bon power, une bonne explosion dans ça, basically, dans ce que ça. Je perds mes mots, man. Je vous l'ai dit, je suis tellement pas prête, les gars. Là. Je fais ça sur le fly en esti. Puis j'ai juste peur que ça se matérialise pas à flyweight. On s'entend à flyweight, c'est la division la plus rapide. Là, tout le monde est fast as fuck, tout le monde est super quick, tout le monde est super explosif, tout le monde est super athlétique. C'est la division où tout le monde est athlétique, tout le monde est rapide. Fait que Cody Garbrandt, est-ce qu'il perd ce petit edge-là en droppant à flyweight? Peut-être. N'empêche, c'est un meilleur boxeur que Kai Kara France. Il devrait être capable de take down Kai Kara France si ça tente. L'affaire qui me gosse, c'est que Kai Kara France est super tough, il est capable de manger beaucoup de dommages, puis on l'a vu contre Bontorin, peut être proche de se faire finir, mais outgot son adversaire, puis revenir avec quelque chose de fou. Puis honnêtement, je ne sais pas si je fais encore confiance à Cody Garbrandt de ne pas juste se faire absolument exploser par n'importe qui à la seconde près que ça ne va plus bien. Parce que quand ça va bien, tout le combat, il est capable de gagner. Mais dès que ça ne va plus bien, il fall apart, que ce soit contre n'importe qui, il fall apart. Fait que honnêtement, je le sais pas. C'est un autre combo où j'ai comme... Si tu regardes les skills, si tu regardes le match-up, c'est pas mal que je pique Cody Garbrandt. Est-ce qu'il va pas se faire allumer encore une fois parce qu'il réussira pas à le knocker, fait qu'il va se mettre en tabarnak, commencer à faire le con puis se faire éteindre bien raide? On le sait pas. Où est-ce qu'il va faire comme contre Rob Font puis pas full se battre parce qu'il sait pertinemment que s'il se fâche puis il se met à faire le con, il va se faire allumer, donc il va un peu shut down comme il a fait contre Rob Font. Je le sais pas, man. C'est juste dur à dire de où est Cody Garbrandt. Fait que, encore une fois, je pense qu'il faut que je le pique, mais c'est lui le favori dans ce combat-là. Puis si j'avais un bet à faire, c'est propre. Je ne suis plus vraiment dans le business de bet mon argent sur Cody Garbrandt là, en bientôt 2022. Là. On dirait que à ce niveau-là, j'apprends de mes erreurs du passé. Ceci étant dit, Rolian Paiva, Sean O'Malley, man, quelqu'un qui va pas nécessairement vouloir grapple avec Sean O'Malley puis qu'il va avoir un énorme désavantage de reach, probablement un énorme désavantage au niveau de la rapidité. Puis il est là, puis il est tough, puis il est capable de se faire 18 puis revenir parce que c'est clairement ça qu'il a fait contre Kyler Phillips. Puis, tu sais, shout-out au fait qu'il a gagné ce combat-là contre Kyler Phillips. Moi, je suis tellement pas d'accord avec cette décision-là. Il s'est fait décontre-colisser au premier round de ce combat-là. Puis oui, il a gagné deux rounds d'après, mais le fait que ça soit pas unanimement des 18 pour Phillips au premier round, c'est un vol, carrément. Puis, entre toi et moi, Rolian Paiva, c'est-à-dire Kyler Phillips, c'est un training partner de Sean O'Malley. Fait qu'il y a du passage d'informations qui s'est fait direct dans le gym à ce niveau-là. Puis, man, ils vont continuer à match-up Sean O'Malley avec du monde qui va outreach, qui va être plus rapide qu'eux, puis qui ne voudra pas nécessairement le takedown. Puis le jour où ils n'auront pas le choix de le mettre contre un top, ils vont le faire. Mais je pense que O'Malley lui-même est un peu embarqué dans la gimmick de je me bats contre aucun ranked fighter, je suis le champion des unranked. Puis. Je pense qu'il va conserver ce belt-là. Basically, j'ai TKO deuxième round pour Sugar Sean dans ce combat-là. Ça nous mène à un fight entre Josh Emmett, Danny Gay. Ça va être assez excellent, ça, parce que Danny Gay... Josh Emmett, un peu ma critique, si j'ai une critique à faire de lui, ben c'est que c'est un counter-striker dédié. C'est quelqu'un qu'il faut que tu l'engages pour qui engage en retour. T'sais, c'est quelqu'un qui est vraiment super willing d'attendre son counter puis qui veut pas vraiment l'aider parce qu'il sait que ça ne l'avantage pas. Donc, contre des combattants qui engagent un peu moins, mettons, ça peut donner des spectacles des fois un peu moins intéressants. Danny Gay n'est pas un combattant qui n'engage pas. C'est un combattant qui veut te stalker, qui veut aller de l'avant. Puis, même son gas tank, c'est son plus gros problème, c'est qu'il gas out dans les later rounds. Puis ça l'a amené à perdre une coupe de split decision, tu sais, contre Bektic, contre Barboza. Même avant, là, il contre Julio Arce, il avait super bien commencé. Puis après ça, il a gazé dans les later rounds. C'est ça qui a fait qu'il a perdu ce combat-là. Il a semblé avoir quand même adressé ça contre Gavin Tucker, puis pas contre Gavin Tucker, c'est-à-dire contre Calvin Kattar, puis contre Chan Sung Jung. Même s'il a perdu ces combats-là, il a eu l'air beaucoup plus technique, beaucoup plus relaxé dans les dernières rondes, puis il a réussi à faire tout ça sans vraiment réduire son output de beaucoup. Fait que c'est quand même intéressant les ajustements que Danny Gay a fait à sa game. J'ai encore, par exemple, le feeling que ça va être dur pour lui là, dans un match-up contre les meilleurs. Puis j'ai l'impression que Josh Emmett, ça en est un qui, même si ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, parce que son combat contre Burgos, qui était au milieu de l'année 2020, ben, il s'est blow le nid là, complètement au début du combat. Mais je vois un peu Danny Gay comme étant la version moins raffinée de Shane Burgos. C'est un peu moins technique. Autant un bully, quelqu'un qui est puissant, qui veut aller de l'avant, tu sais, puis qui est bon dans cet aspect-là du combat, d'être un stalker, d'être un pressure fighter, avec un peu moins de raffinement technique. Puis on a vu Josh Emmett qui a juste été capable de out-technique un gars comme Shane Burgos. Tu sais, je veux pas utiliser du MMA mat parce que ça marche pas, mais honnêtement, si t'es capable d'out-striker Shane Burgos, tu devrais être capable d'out-striker Danny Gay. Puis Emmett reste un excellent lutteur, un gars de Team Alpha Male, donc j'aurais pas trop peur de la menace des takedowns au niveau de Danny Gay dans ce combat-là. Fait que mon pick, ça va être Emmett par décision, parce que le Chummy Gay est très tough, comme j'ai dit, puis très très difficile à finir. Fait que c'est ça mon pick. Ensuite, Pedro Munhoz, Dominic Cruz. Quelle semaine pour Dominic Cruz, hein? Tabarnouche, mon gars, man. Trouve le moyen de refaire sortir sa personnalité qui n'est pas excellente. Là, on va se le dire, quand même abrasif comme être humain d'homme. Et puis, en tout cas, pas une grosse semaine pour lui, mais pour ce qui est de son combat contre Pedro Munhoz, tu sais, j'ai l'impression que j'ai vu Pedro Munhoz fall short trop souvent contre des gens qui sont comme juste plus techniques que lui. T'sais, Pedro Munhoz, où il est le plus technique, c'est au sol. C'est un bon grappler, un bon submission grappler. Sa guillotine est absolument incroyable. Si tu lui laisses la chance d'être sur le top, il peut faire des très belles affaires. Sur son dos, un petit peu moins efficace. Puis, t'sais, je l'ai vu se faire outstriker par José Aldo, se faire outstriker par Frankie Edgar. T'sais, même le rematch contre Jimmy Rivera, celui qui a gagné, est un peu trop serré là, pour mon goût. Fait que j'ai l'impression que, oui, Dominic Cruz vieillit, mais Dominic Cruz a toujours été un fighter suprêmement technique, suprêmement intelligent, qui, tu sais, son mouvement, là, on en a déjà parlé, puis on n'en parlera pas vraiment plus, mais bouge comme personne ne bouge. La façon dont, tu sais, la différence entre Cruz puis les autres fighters qu'on dit de descendance de Dominic Cruz, donc, tu sais, les Dillashaw, les Garbrandt, to a certain extent, Corey Sandhagen, des gars comme ça. La chose qu'ils n'ont pas, que Dominic Cruz a, c'est la façon dont il mixine ses takedowns avec tous ses mouvements bizarres et son striking. C'est absolument masterful. Puis c'est ça qui fait que Dominic Cruz est un si bon fighter. Là. C'est sa lutte. T'sais, oui, son striking, son mouvement est incroyable, mais c'est sa lutte qui le rend autant efficace que ça. Puis, j'ai l'impression que il va tellement arriver à des angles bizarres et prendre Munhoz par surprise que Munhoz n'aura pas la fraction de seconde d'avance qu'il y a pour justement locker sa guillotine et gagner ce combat-là. Fait qu'honnêtement, j'ai tendance à pick Dominic Cruz de façon... C'est un pick quand même assez safe, selon moi. C'est un pick que je suis quand même assez confiant. Parce que justement, tu sais, j'ai vu Munhoz se faire outstriker par Frankie Edgar, on s'entend. Frankie est un bon striker technique avec un bon pace, puis juste ça, c'était assez pour être plus technique que Munhoz, qui est bon debout, mais niveau raffinement technique, ça laisse un peu à désirer. Fait que, en tout cas, j'ai Dom Cruz par décision ici dans ce combat-là. Ça nous mène Un autre combat, un peu comme Garbrandt, Kyra France, un peu comme Jeff Neal, Santiago Ponzinibbio. Ici, on s'entend, Augusto Sakai devrait gagner ça par décision. Surtout s'il décide d'amener le combat au sol. Pat Rivasa est une plaie au sol. Genre, si tu mets ce gars-là sur son dos, ne se lèvera pas probablement jusqu'à la fin du round. Là. C'est à ce niveau-là qu'il est poche au sol. Puis, tu sais, même debout, Sakai est quelqu'un qui veut. Garde un bon volume pour heavyweight, c'est-à-dire volume ordinaire. C'est pas le fighter le plus actif du monde, mais a tendance à vouloir striker ses adversaires en volume plus qu'avec des power shots. Puis, tu sais, honnêtement, ces deux derniers combats me donnent un peu de pause parce qu'il s'est fait knocker. C'est sûr que c'est contre genre Alistair Overeem, puis c'est qui l'autre déjà? Ouais, Jairzinho Rozenstruik. Bon, s'entend, tu peux dire ce que tu veux sur Tite Tuivasa. Le gars, il a knocké Greg Hardy, c'est un héros national, mais c'est pas Alistair Overeem, c'est pas Jairzinho Rozenstruik. Ça reste un asti de gros jambon super tough qui peut probablement te knocker à peu près n'importe quand, mais c'est comme est-ce que je peux vraiment compter là-dessus? Peut-être, parce que Sakai s'est fait finir à ses deux derniers combats, mais d'un autre côté, c'est comme pas le même niveau de fighter non plus. Fait qu'encore une fois, j'ai pas le choix de pick Augusto Sakai ici, mais je sais pas c'est quoi les odds là, pour ce combat-là, je les ai pas checkés, mais si les odds sont moindrement serrés, peut-être que mon bet serait plus sur Taille que sur Sakai ici. Ensuite, vous voulez des knockouts en v'là un. Bruno Silva, Jordan Wright va se faire knocker. Bruno Silva, on l'a vu à son dernier combat contre Andrew Sanchez. Le gars peut perdre tout le crise de combat. Puis un moment donné, il dit, ouais, mais crèche, je suis tanné de perdre. C'est de la stine marde dans le fond. Puis knocker un dude. Puis Jordan Wright, c'est comme ça qu'il perd. Là, on s'entend. Il y a juste une défaite. Puis un no contest. Son no contest au Contender Series. Puis c'est une défaite par KO qui est overturned parce que son adversaire avait fumé la très dangereuse drogue nommée cannabis. Fait qu'évidemment, quand tu commets un acte aussi terrible, tu mérites de perdre ta victoire. Fait que c'est ça qui est arrivé. Mais Silva knock du monde. Jordan Wright se fait knocker. Silva by knockout. Premier round, deuxième round, comme vous voulez. J'ai dit quoi, moi? Premier round. Dang. André Mounis contre Ya Boy. Crise de shit show, ça, mon chum. C'est comme. Mounis, c'est quand même 5-0 dans l'UFC. Il est weirdly good. C'est quelqu'un qui. Tu sais, quand on disait des grapplers vraiment très bons au sol qui n'ont pas full de façon d'amener le combat au sol. Il y a l'année des takedowns contre Jack Harry. Là, je ne sais pas trop ce que ça veut dire parce que Jack Harry, calice, c'est littéralement le fantôme. T'sais, il a soumis Jack Harry, là, on s'entend. Puis soumis Jack Harry, c'est juste qu'il casse le bras parce que tu ne peux pas faire taper Jack Harry Souza. Il faut dire qu'il pète son calice de bras sale. Mais c'est ça qu'il a fait. Puis le gars est une victoire par décision. Le reste, c'est tout des soumissions. Est-ce qu'il va te choquer? Ya Boy qui... D'après moi, Ya Boy, autant est pas bon vraiment au sol. Ça doit être quelqu'un qui est dur à choquer parce que il est gros, il est fort, il est explosif. Puis tu sais, le monde qui roule, vous savez, des fois, des gars de même, ça a comme juste des réflexes de gars fucking athlétiques qui est genre, oh, je vais me choquer, lui, Carlis. Non. Puis là, boum, il se lève, puis il refuse le choke. Puis là, t'es genre, mais... Qu'est-ce qui vient d'arriver? Pourquoi il se sauve de même? Lui, c'est pas supposé de marcher sans jujitsu, mais des fois, les gros gars forts font juste des affaires qui marchent pas. Puis j'ai l'impression que c'est pas mal ça pour Ya Boy. J'ai quand même peur un peu pour Mooney ici, debout. Ya Boy est capable à tout bout de champ, décider qu'il explose quelqu'un parce que justement, il est suprêmement fort et athlétique, puis genre, oh! Tanné, moi, puis il crisse dans la cage, puis il calisse 3-4 coups de genou dans le ventre, puis le gars, il plie, genre, des affaires bizarres, mais encore une fois, Ya Boy est pas excellent comme gars, puis je pense que Mooney va gagner. J'aurais tendance à peut-être plus dire par décision que par soumission, puis oui, Fred, c'est définitivement le gars que Marc-André Barrio call out à toutes les hosties de fois, puis il va finir par l'avoir un moment donné, parce que Barrio, il est sur une belle winning streak, puis il va finir par l'avoir un moment donné, mais entre-temps, j'ai Mooney par décision ici. Ça nous mène à Miranda Maverick, Erin Blanchfield. Bon combat de prospect. Miranda Maverick, est-ce qu'on peut reparler d'à quel point elle s'est fait voler contre Macy Barber? Là? Ça n'avait pas de calice de bon sens. C'est son premier combat depuis. Puis Honnêtement, je pense qu'elle va battre Blanchfield. Là, Blanchfield est bonne. Elle a battu Sarah Alpar dans ses débuts à l'UFC. Ça veut pas vraiment rien dire, là, honnêtement. Battre Sarah Alpar, c'est quand même triste, je te vous dirais. Mais bref, elle l'a battu. Et puis, c'est une bonne prospect. Elle fait bien les choses, mais j'ai l'impression que Miranda Maverick est un petit step en haut dans son développement. Puis tu sais, on l'a vu, là, quand on dit la défaite contre Barber, ça n'avait pas de collis à l'heure, mais ça n'avait pas de collis à l'heure parce qu'elle était comme vraiment bonne dans ce combat-là, puis elle méritait de gagner. Puis, mais si Barber, oui, c'est, les attentes ont descendu, tu sais, par rapport à elle à cause de ses défaites. Puis tu sais, son prospect status, je pense, était un peu enflé. Là, ça l'a désenflé un petit peu, mais ça reste quand même une bonne combattante. Je pense que autant elle était peut-être overrated vu un petit bout. Là, je pense qu'en ce moment, Macy Barber est peut-être un peu underrated parce que le monde, on turn sur elle bien raide, puis ils pensent tout qu'elle est vraiment à chier. Puis elle n'est pas complètement à chier. Puis Maverick, je pense qu'elle méritait de la battre. Fait que, pour cette raison-là, c'est un peu dur de ne pas pick Miranda Maverick ici par décision dans ce combat-là. Ça nous mène à un excellent duel flyweight entre Alex Perez et Matt Schnell, qui risque d'être très intéressant, très compétitif, juste au moment où Matt Schnell va un peu genre s'auto-détruire, puis soit se faire knocker ou se faire soumettre. Probablement plus se faire soumettre, parce que Perez, c'est le genre de petit gars stocky qui aime finir des gros crises d'arm triangle là, sur le top et tout. Mais je pense que ça va être bon. Honnêtement, Matt Schnell, il fait sur le long, travaille quand même bien derrière son jab. Fait que je pense qu'il va avoir des bons échanges où Schnell va essayer de reculer, garder un bon volume. Perez va essayer d'être genre John Lineker, là, de stalker son adversaire, puis de lancer une coupe de crochet au corps, puis s'accrocher à lui, essayer de l'amener au sol. Je pense qu'on va avoir des très bons échanges dans ce combat-là. Ça va être un bon combat de début de carte. Je pense qu'Alex Perez a des bonnes chances de gagner ça par soumission au deuxième round. Et ça nous mène à un combat... Et pour littéralement le temple de la renommée. Okay. Ryan Hall, Derek Minner. Man, Derek Minner, là, c'est une des histoires que je comprends le moins dans l'histoire de l'UFC. Le dude arrive avec une fiche de 24 victoires, avec une dizaine de défaites. Puis là, t'es genre... Je me demande, pourquoi ils viennent de caler ce gars-là dernière minute? Puis là, comme de fait, il se fait complètement ruiner par Grant Dawson dans la manière exacte que ça y arrive toujours. C'est-à-dire, soit que ce gars-là te soumet par choke au premier round, que ce soit une guillotine, il y a un poppy triangle, des rear naked, mais souvent, le gars se retrouve dans la merde puis il finit ça par guillotine ou par triangle de son dos. Là, c'est pas mal ça, sa gimmick. Ou soit que le premier round continue puis ne finit pas, puis là, finalement, t'arrives au deuxième puis Derek Minner est complètement gazout puis il perd, souvent par soumission aussi, au deuxième round, tu sais, comme Grant Dawson, deuxième round, Herbert Burns l'a battu au premier round, ça, c'est fou, mais Kevin Krum l'a battu au deuxième round, Jordan Griffin l'a battu au deuxième round, il a perdu contre Chico Camus, il a perdu contre Jesse Arnett, il a perdu contre Luke Sand, c'est toutes des défaites par soumission, les sites. Fait que ceci étant dit, Ryan Hall va le taper, Calis. Va-t-il arracher un esti de genou parce qu'il y a du monde qui sont assez intelligents pour pas jouer à la game de Ryan Hall. Il y a du monde qui sont assez intelligents pour pas jouer à la game de Ryan Hall, mais qui n'ont aucune crise de réponse pour sa game. Fait qu'ils finissent à essayer de se sauver de lui. Puis de Ryan Hall qui avance en lançant des petits kicks bizarres, puis qui score, puis qui gagne une décision weird. Ou il y a du monde qui sont juste genre. Fuck that, moi je suis un fighter, puis ma force c'est le grappling, puis je gagne par soumission ou je perds par soumission. Puis ce gars-là c'est Derek Minner, Calis. Fait que soumission pour Ryan Hall au premier round. Et ça nous mène à un combat qui est un de ceux que j'attends le plus sur la carte, parce qu'honnêtement, autant je suis impressionné par Randy Costa, j'ai vraiment hâte de voir. Qu'est-ce que ça va donner dans ce combat-là? Parce que Tony Kelly, c'est un combattant qui est très underrated, qui est immensément tough. Puis, tu sais, on a vu Costa sortir. Son premier round contre Adrian Yanez, c'était complètement débile. Le problème, c'est qu'à chaque fois dans sa carrière qu'il a sorti du premier round, il a perdu. Quand il est sorti du premier round contre Yanez, il a perdu. Ses débuts dans l'UFC affrontait Brandon Davis, un gars qui a une fiche de 14 victoires, 9 défaites aujourd'hui. Tu sais, pas un highly ranked fighter. Oui, t'es un combattant de l'UFC, mais c'est un journeyman de milieu de division de l'UFC. Puis il a réussi à survivre le premier round contre Costa, puis il l'a battu par soumission au deuxième round. Puis toutes les autres, Johnny Newson, Boston Salmon, puis toutes les autres dudes qui affrontaient avant ça, je les ai knockés au premier round, ben red, parce que le gars, c'est un train au premier round comme jamais, mais plus tu montes, plus ça va être dur de finir tout le monde au premier round. Puis Tony Kelly, c'est un gars qui n'a perdu qu'une seule fois au premier round dans sa vie, puis c'était par soumission, là, c'est une guillotine. Le reste du temps, c'est soit lui qui... En fait, il a gagné au premier round, il n'a pas perdu, il a juste deux défaites à sa fiche, puis c'est des split decisions. Là, une fois contre Kai Kamaka, l'autre fois contre Kevin Aguilar. Fait que dans le fond, il se fait pas finir. C'est ça que j'essaie de te dire. Tony Kelly ne se fait pas finir. Randy Costa, s'il n'est pas capable de te finir au premier round, perd. J'ai quand même envie de pick Costa parce que quand tu regardes la différence de frame des deux gars, la différence d'explosivité des deux gars, la différence de skills des deux gars, Costa, un striker absolument incroyable à comparer de Tony Kelly. Mais est-ce que je peux faire confiance à Randy Costa passer le premier round? Pas vraiment. Puis Tony Kelly est un gars qui ne se fait pas finir. Ah, sauf qu'il n'a jamais affronté Randy Costa encore non plus. Fait qu'on a vraiment un combat difficile à pick ici. Puis honnêtement, je pense que je vais y aller avec Tony Kelly. Je pense que je vais y aller avec Tony Kelly parce que Randy Costa sort tellement en madman que c'est dur, même s'il y a un bon gas tank, d'avoir encore du gaz rendu à ce stade-là quand tu sors comme un fou de même au premier round. Fait que j'ai Kelly par décision dans ce combat-là. Et ça nous mène au premier combat de la soirée. Jillian Robertson, Priscilla, Cachoeira. Et puis, il y a une partie de moi qui a un peu peur parce que Jillian, ça va pas super bien pour elle, hein, on s'entend. Puis plus le temps avance, plus tu te rends compte que s'il n'est pas sur le top de son adversaire, elle est complètement dépourvue, là, que ce soit en striking, c'est dur pour elle en striking, ou que ça soit littéralement au sol, en dessous. Si tu take down Jillian Robertson puis tu as un bon top control, la fille peut se retrouver prise en dessous puis avoir des très mauvais moments là, comme on a vu contre Tyler Santos puis contre dans plusieurs de ses derniers combats. Heureusement, Priscilla Cachoeira ne sait basically pas défendre un takedown pour sauver sa vie, puis elle risque d'arriver très agressive comme elle le fait toujours. Fait que Jillian Robertson risque de counter ça direct avec un takedown puis la soumettre au premier round. Mais j'ai quand même peur parce que Jillian a l'air d'être sur un downfall, puis ça a l'air de pas bien aller pour elle récemment, puis Priscilla Cachoeira réussit à gagner des fights ici et là. Fait que le momentum me fait peur, mais le pic à faire, c'est quand même Jillian Robertson ici. Parce que comme on dit, la seule place qui est encore vraiment efficace et excessivement dangereuse, c'est sur le top. Puis Cachoeira ne sait pratiquement pas défendre un takedown pour sauver sa vie. Donc c'est ça. C'était mes analyses et prédictions impromptues de l'UFC 269, vu que j'avais oublié de pre-record parce que j'avais beaucoup de choses à faire cette semaine. Et puis, ben, je vous ai wing ça, les boys. J'espère que vous avez apprécié. C'était pas la fois la plus scientifique de ma vie, mais je l'ai faite quand même. Fait qu'à la prochaine. Bon combat samedi soir. Je sais pas s'il va y avoir un live après. Parce que moi, je vais être un party de fight. Oui, je vais essayer d'écouter la main card, là, tu sais, parce que c'est plus dur à retrouver. Fait que je vais écouter la main card en chillant, tu sais, en chillant, en tant que mes amis, puis tout. Puis je sais pas si je vais faire un show après. Puis je vais demander aux gars, là, mais bref. En tout cas, on se tient au courant. Likez-vous, likez-moi, likez, calisse, abonnez-vous. Vous savez quoi faire, là. Ciao.